C'est toujours un privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de lire un texte qui se trouve un peu dans la période liturgique dans laquelle on se trouve, la période du calendrier particulière. On a eu Pâques la semaine dernière et puis les fêtes s'enchaînent avec l'Ascension, la Pentecôte. Et tout ça, c'est des fêtes qui nous rappellent comment l'Église s'est construite, comment on est passé du peuple d'Israël, du peuple choisi par Dieu, à la nouvelle alliance en Jésus-Christ et à travers l'Église. Et dans cette période intermédiaire, il s'est passé un certain nombre de choses. Sandra nous a rappelé plusieurs récits, plusieurs rencontres de Jésus avec ses disciples, plusieurs apparitions. Et c'est aussi une de ces apparitions, une de ces rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples que je souhaitais partager avec vous. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, si vous voulez suivre, sinon vous pouvez très bien écouter la lecture. Jean au chapitre 21. Donc voilà, l'évangile de Jean, au chapitre 21, et puis je vais lire dans la Nouvelle Français Courant, qui est la traduction qu'on donne aux enfants lorsqu'on leur donne la Bible au début de l'année. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?»« Non, » répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger !» Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage, il fait de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, répondit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il le demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Oui. Je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Jésus se retourna et vit le disciple que Jésus aimait, qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et qui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Jésus le vit, il dit à Jésus, quand Pierre le vit, pardon, il dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » On va arrêter ici notre lecture du texte biblique. Et donc, vous avez compris à l'écoute, il s'agit d'une rencontre entre sept des disciples de Jésus qui ont marché avec lui et leur maître. Et puis, dans cette rencontre, il y a un focus particulier sur Simon-Pierre, qui a un temps vraiment personnel avec Jésus. Alors, il ne faut pas oublier que ces acteurs sont des acteurs particuliers. Ce n'est pas un récit générique qu'on peut appliquer à tout le monde. C'est vraiment Pierre et c'est des disciples que Jésus est venu rencontrer. Et donc, c'est délicat de tirer rapidement des leçons. Mais je pense quand même que, sans généraliser, on peut trouver des éléments pour nous aujourd'hui dans notre mouvement à la suite de Jésus. Dans ce récit, il y a quand même des choses étranges, inhabituelles. Et je relève trois éléments particuliers. D'abord, la rencontre, elle est un peu bizarre. Les disciples étaient ensemble, comme au bon vieux temps. Il est difficile de se séparer pour eux, bien que Jésus soit parti. Ils ont vécu tellement de choses ensemble qu'ils restent ensemble. Et puis, Jésus leur a dit de l'attendre en Galilée. Alors, c'est là qu'ils sont allés, en Galilée. Quelque part, pour beaucoup, c'est un retour chez eux. C'est là qu'ils ont rencontré Jésus la première fois. Et ils partent pêcher, comme au bon vieux temps. C'était leur métier pour plusieurs. En tout cas, c'est celui de Simon-Pierre qui met tout le monde en route. Écoutez, on ne sait pas quoi faire. Moi, je suis pêcheur, je sais pêcher, je vais pêcher. On y va. Mais ils n'ont rien pris de la nuit et il y a cet inconnu sur la rive, qui passe par là et qui leur dit de jeter le fichier de l'autre côté, et ça marche. Je ne suis pas très fort en pêche, mais je ne suis pas sûr que cette technique, on puisse l'appliquer à chaque fois pour avoir un résultat similaire. En fait, ils reconnaissent Jésus. Parce qu'il y a eu un épisode exactement similaire au tout début des évangiles. On ne l'a pas dans l'évangile de Jean, mais Luc nous le rapporte. Au tout début, c'est comme ça que Pierre et son frère André ont été appelés. Ils avaient pêché toute la nuit, rien attrapé. Et Jésus leur a dit de mettre le filet de leur côté et ils ont une pêche miraculeuse. Il n'y a pas de doute. Ils ont déjà vécu ça. C'est le Seigneur. Et on sent qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Ils sont entre enthousiasme et crainte. L'enthousiasme de Pierre qui se jette à l'eau comme ça, de gens qui le reconnaissent, c'est le Seigneur. Et puis de tous qui ramènent le bateau à la hâte pour venir le voir. Et puis quand ils sont à côté de lui, ils ne savent pas trop quoi dire. Ils ne sont pas trop sûrs que ce soit lui, parce que quand même, il est mort, ce n'est pas quelque chose commun que de manger avec un mort. Et en même temps, ils savent qui c'est. Ils se sentiraient bêtes de lui poser la question « Qui es-tu ?» Ils le savent. Ils sont là, ne sachant pas sur quel pied danser, à revivre ce miracle qu'ils ont vécu au tout début, comme si les choses allaient recommencer, mais elles ne peuvent pas recommencer. Elles ne seront pas pareilles. Jésus est mort et ressuscité, et eux, ils ont vécu tellement de choses, ce ne sera pas la même chose. Une rencontre bizarre, et puis un dialogue aussi étrange entre Jésus et son disciple, Simon-Pierre. Il est étrange parce que on a l'impression que Jésus répète toujours la même chose. Où est-ce qu'il veut en venir? Trois fois, il lui pose cette question. Est-ce que tu m'aimes? Trois fois. Comme le nombre de fois que Pierre a renié son Seigneur pendant la Passion. On peut être surpris par cette manière de procéder. On a plutôt tendance, dans notre société occidentale, à mettre en avant le côté direct. Jésus aurait pu lui dire, tu sais, quand tu m'as renié, tu m'as blessé. Et Pierre dit, ah ouais, je comprends, je te demande pardon. Mais non, Jésus agit ainsi, de manière plus indirecte, mais il touche le cœur de Pierre qui comprend bien et qui est peiné. Il est peiné parce que Jésus lui demande trois fois, comme si sa réponse ne suffit pas. Pourtant, il a changé. Ce n'est pas le Pierre vindicatif du dernier repas. Même si tout le monde te laisse tomber, moi, je ne te laisserai pas tomber. Non, il est plus modeste, plus humble. Tu sais. Tu sais, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Il a appris. Que fait Jésus en répétant ainsi? Est-ce qu'il lui fait payer pour qu'il sache bien combien il l'a fait souffrir, comme une forme de vengeance? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une vengeance de la part de Jésus. Je crois que Pierre avait besoin de mesurer l'ampleur, la profondeur de son enfance. Et là, dans ce dialogue qui se répète, il prend la mesure de sa trahison. Et il prend aussi la mesure du pardon de Jésus. Parce que Jésus, en même temps, il lui confie une des tâches les plus importantes. Prendre soin de son troupeau. Des agneaux, des moutons. C'est-à-dire les disciples, les autres, ceux qui marchaient avec lui. Et puis, nous le savons, tous ceux qui viendront ensuite. Pierre, quelque part, là, Jésus l'installe comme le premier pasteur. Alors, pas le premier pape, mais le premier pasteur de son troupeau. Et puis, troisième élément un peu particulier dans cette rencontre, la dernière question de Pierre. Et lui? Qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Lui, c'est Jean, celui qui écrit cet évangile. Jean, quand il parle de lui dans l'évangile, il ne cite jamais son nom. Il parle toujours du disciple que Jésus aimait. Comment comprendre cette question? Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus annonce à Pierre, « Tout ne va pas être rose pour toi. vas être fait prisonnier, on va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Tu vas mourir, tu seras étendu, on étendra tes bras comme Jésus sur la croix. Tout ne va pas être rose pour toi. Et Pierre demande, et lui ? Je crois qu'il y a deux façons de comprendre cette question. L'option 1, c'est, et lui, est-ce que lui aussi, il va mourir ? Est-ce que lui aussi, il va souffrir ? Tu m'annonces la difficulté, la contrainte, la mort, et lui, est-ce qu'il subira autant que moi ? Une espèce de jalousie, ce serait, j'aimerais pas être défavorisé par rapport à l'autre. Mais il y a une deuxième façon de comprendre aussi. Parce que j'ai du mal à adhérer complètement à cette première façon de comprendre, alors que Pierre vient de vivre quelque chose de fort. Il a compris qu'il avait fait mal, et puis Jésus vient de l'instituer comme berger, pasteur pour les autres. Ce serait malvenu, ces petites guéguerres mesquines. Et peut-être que Pierre considère Jean, qui est le disciple que Jésus aimait. Beaucoup de commentateurs pensent que c'était le plus jeune, le plus fragile, que Jésus avait particulièrement pris sous son aile. On nous rappelle, pendant le dernier repas, qu'il était là, tout contre Jésus, en mode câlin pour ce dernier repas compliqué ou plein d'émotions où Jésus annonce qu'il part. Et peut-être que la question de Pierre, c'est « Et lui ?» Si je meurs, qui c'est qui s'occupe de lui ? Que lui arrivera-t-il ? Et quel que soit le sens de la question de Pierre, il y a la réponse de Jésus. Toi, suis-moi. Ne t'inquiète pas de lui. Ne t'inquiète pas de ce que je lui demande. C'est à toi que je parle. Suis-moi. Je le disais, c'est un appel qu'il adresse à Pierre en particulier. Mais je crois que nous aussi, nous pouvons en tirer quelque chose. Et je retiens trois leçons sur la façon dont nous pouvons suivre Jésus. Trois leçons à mettre en pratique dans la façon dont nous suivons Jésus. Pour nous. Qui suivons un Seigneur qui ne marche pas avec nous sur les routes comme il l'a fait pendant à peu près 3 ans avec ses disciples. Il me semble qu'on est un peu comme ses disciples face aux miracles. Nous voyons des signes, des choses qui nous parlent, qui parlent des choses miraculeuses, extraordinaires. Quand nous sommes ensemble et que nous louons Dieu, nous ressentons des choses. Nous ressentons la joie, la paix, la présence de Dieu, la fraternité. Nous ressentons des choses qui nous parlent. Quand nous sommes dans l'épreuve également, toutes sortes d'épreuves, que ce soit des attaques, des moments où nous sommes en détresse à cause d'événements ou à cause de difficultés dans nos interactions avec d'autres, que ce soit plus des défis, des moments où on a besoin de faire confiance à Dieu, ou des moments où on a besoin qu'il nous guide, je suis toujours étonné de voir combien Dieu me parle plus dans l'épreuve. Combien le texte biblique me parle plus quand je suis en difficulté que dans ma vie quotidienne et tranquille. Ces promesses, ces enseignements prennent un sens différent. On se rend compte de combien la Bible est pertinente, de combien elle connaît la réalité de l'être humain. Et puis c'est un moment aussi, les épreuves, où nous pouvons expérimenter la délivrance et nous voyons les promesses s'accomplir. Et puis nous ressentons des choses, nous voyons aussi des choses quand nous le voyons agir dans le cœur des gens, quand nous avons le privilège d'accompagner quelqu'un qui avance avec le Seigneur et qui montre les signes de ce que Dieu agit dans sa vie, qui, qui nous dit, qui nous raconte qu'il a l'impression que Dieu lui parle jour après jour, qu'il a envie de conformer sa vie au commandement de Jésus, qu'il prend conscience de à quel point il est loin, à quel point il est pécheur et qu'il a le désir de changer. Et quand on a le privilège d'accompagner quelqu'un comme ça, lorsqu'on reconnaît dans ce qu'il vit, dans ce qu'il nous partage, la description de ce que fait le Saint-Esprit, on reconnaît là aussi les signes de ce qui se passe. On est comme les disciples au bord du lac quand on voit ces choses. On a envie de demander si c'est bien le Seigneur qui agit, parce qu'il n'est pas là en chair et en os devant nos yeux. Mais on n'ose pas le demander parce qu'on sait. On sait que c'est lui. On sait qu'il est là et qu'il agit. Et nous avons besoin, c'est la première chose que je retiens comme guide pour nous qui voulons suivre Jésus. Nous avons besoin de le reconnaître. Nous avons besoin d'user de foi. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, c'est dire, oui, j'ai des éléments de doute, mais ce dont je doute, je décide de le croire. Je décide de croire que ce que je vois, c'est Jésus qui agit. L'enjeu, c'est de faire taire les doutes et reconnaître la réalité de Jésus, qu'il est présent et qu'il nous dirige encore aujourd'hui. La deuxième étape, la deuxième chose que nous avons besoin de faire nôtre lorsqu'on veut suivre Jésus, c'est de passer par la repentance, comme Pierre l'a fait. Parce que des fois, nous ne sommes pas à la hauteur et nous péchons. Et le péché peut prendre de nombreuses formes, des formes grossières, des ressentiments, de la haine à l'égard de son frère, de sa sœur ou de son prochain, une addiction, une forme d'excès, une forme d'immoralité. Toutes ces choses-là, on sait que ce sont des péchés. Des fois, ce sont des choses plus discrètes, avec une orientation mauvaise du cœur. Pierre a chuté parce qu'il se surestimait. Il se croyait plus fort que ce qu'il n'était. Mais il a rencontré ses limites. Il a fait face à la peur et il n'a pas pu tenir ce qu'il avait promis. Rester fidèle à Jésus. Et je pense qu'ici, nous comprenons tous pourquoi il est tombé. Qui peut assurer qu'à sa place, il aurait tenu et il n'aurait pas renié Jésus? Des fois, le péché est plus subtil et il s'appuie sur le fait qu'on se trompe nous-mêmes. Des fois, on a besoin qu'un frère, qu'une sœur vienne nous dire « Tu sais, je crois qu'il faut que tu ouvres les yeux. Là, tu pèches. Tu pèches contre les autres et tu pèches contre Dieu. » Parfois, il s'agit d'une façon de vivre qu'on avait avant de se convertir, avant de sa vie chrétienne, mais parfois, c'est quelque chose qu'on a mis en place après avoir commencé à suivre le Christ. Et ça, ça fait mal. Parce qu'on était sincère lorsqu'on s'est mis en route avec lui. Et dans ces cas-là, lorsqu'on prend conscience de ça, il n'y a pas 36 possibilités. Il faut reconnaître notre péché. Passer par un temps de repentance, et peut-être un temps de repentance qui va durer, qui n'est pas instantané, qui va profondément en nous. Pensons à Pierre qui a dû entendre cette triple question pour bien comprendre. Parfois, on a besoin de ce temps pour comprendre la portée de notre enfance et la grandeur du pardon que nous offre notre Seigneur. Car si les autres ne nous pardonnent pas toujours, lui nous pardonne toujours lorsque nous nous tournons vers lui en repentance. reconnaître Jésus, passer par la repentance. Et puis, troisième leçon à mettre en œuvre dans la façon dont nous suivons Jésus, oublier un peu les autres. Je le dis de manière provocante, parce que quand on sait que Jésus a commandé à ses disciples de s'aimer, il est clair que nous devons nous préoccuper des autres et les aimer comme il nous le commande. Mais nous devons aussi ne pas nous positionner par rapport aux autres, mais nous positionner seuls devant notre Seigneur. Lorsqu'il nous appelle, c'est pour vivre une relation personnelle avec lui. Et il nous appelle pour avoir une place spécifique dans le corps, une place qui est la nôtre, qui vient se mettre en mouvement avec les autres, mais qui ne dépend pas des autres. Cette place, c'est lui qui nous la donne. Et il compte sur nous. J'avais proposé deux hypothèses pour la question de Pierre et lui, que lui arrivera-t-il ? Soit cette crainte d'être défavorisé, moins bien traité que son frère, que sa sœur, qui a ce que nous voudrions avoir, qui a la place que nous voudrions avoir. Soit une responsabilité plus grande que celle que nous confie le Seigneur. On pense que l'autre a besoin de nous. On pense qu'il doit reposer sur nous et on se charge de plus que le Seigneur nous donne. Mais que ce soit un cas ou l'autre, le Seigneur nous dit « Laisse-moi m'occuper de ton frère, de ta sœur. Je m'en occupe. Je m'en occupe comme je m'occupe de toi. Toi, suis-moi. » Alors, nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs comme Pierre, mais nous sommes tous appelés par le Seigneur qui a un plan. Pour constituer, pour construire son Église. Et nous en faisons partie. Et il nous appelle, toi, suis-moi. Et cet appel, le même que ceux qui l'ont vu et entendu et qui ont emboîté son pas sur les routes de Galilée et de Judée, c'est ce même appel que nous recevons aujourd'hui, alors que nos yeux ne le voient plus. Toi, suis-moi. Et cet appel, comme pour Simon-Pierre et ses compagnons, il a parfois besoin d'être réactivé. Parce que parfois, nous nous perdons en chemin. Parfois, nous faisons un peu les choses automatiques selon ce que nous savons faire, notre savoir-faire, comme Pierre qui retourne à la pêche. Nous y allons comme ça de façon automatique et perdons la proximité de notre mère. Père, nous avons besoin d'être renouvelés. Et ce renouvellement, il passe par trois étapes. Le reconnaître. Reconnaître sa voix, reconnaître son action, reconnaître sa présence, même si elle n'est pas physique. Vivre la repentance, reconnaître notre péché, même si ce péché découle de ce que nous croyons bien faire. Et puis, se positionner pour nous-mêmes et non par rapport aux autres, même si le Seigneur nous place à proximité des autres. Il nous appelle. Il t'appelle. Toi, suis-moi.